Il faut remonter à ce qui s'est passé il y a maintenant 6 ans, presque jour pour jour. C'était au mois de mai 2010. Une flottille de bateaux humanitaires partis de Turquie en direction de Gaza a été interceptée par des commandos de l'armée israélienne. L'altercation a été très violente puisqu'elle s'est soldée par la mort de 10 ressortissants turcs qui tentaient de briser le blocus israélien à l'encontre de Gaza, alors que les troupes israéliennes n'ont subi aucune perte puisque évidemment les humanitaires n'étaient pour leur part pas armés. Donc s'en est suivi une brouille assez vive entre la Turquie et Israël. La Turquie évidemment exigeant des excuses de la part du gouvernement israélien, exigeant l'indemnisation des familles des victimes et exigeant aussi la levée du blocus israélien mis en place à l'encontre de Gaza. Donc nous étions dans une situation de tension assez vive entre Ankara et Tel Aviv.
Quel est l'intérêt d'un tel accord pour ces deux pays?
Chacune des parties en fait a intérêt, pour des raisons différentes bien évidemment, mais aussi complémentaires, à tenter de réduire, voire de briser l'isolement relatif dont ils sont victimes. Pour le cas d'Israël, il est bien évident que la politique menée par le gouvernement israélien à l'encontre des Palestiniens aboutit à ce que ce pays soit relativement isolé, je dis bien relativement, parce qu'il bénéficie encore de nombreux soutiens, cela va de soi. Et pour la partie turque, eh bien, on est dans une situation qu'on peut comparer, c'est-à-dire que la volonté de la Turquie de s'affirmer comme une puissance régionale absolument incontournable, la volonté qui avait été édictée par l'ancien ministre des Affaires étrangères turc, M. Davutoğlu, qui consistait à vouloir normaliser la relation avec tous les pays de la région, s'est avéré un relatif échec. On comprend bien qu'aujourd'hui, la Turquie, en réalité, a plutôt des difficultés à entretenir des relations fluides et normalisées avec ses voisins. Donc la Turquie, elle aussi, est sujette à un relatif isolement politique et diplomatique dans la région.
Et quelles étaient les conditions posées pour parvenir à un accord ?
Alors, il y avait 3 conditions principalement énoncées depuis 2010 par les autorités turques. C'était d'une part des excuses de la part des autorités israéliennes pour ce que je qualifierais moi d'assassinat des 10 turcs humanitaires lors de l'intervention des commandos israéliens que j'évoquais précédemment. Ça a été chose faite il y a 3 ans lors d'une visite de M. Obama en Israël, M. Obama ayant convaincu M. Netanyahou de présenter ses excuses. La deuxième condition, c'était une indemnisation des familles des victimes turques après l'arraisonnement de ces bateaux humanitaires il y a 6 ans. C'est chose faite puisque Israël versera très certainement 20 millions de dollars pour indemniser les familles des 10 victimes. La troisième exigence turque, c'était la levée du blocus israélien à l'encontre de Gaza. Là-dessus, les Israéliens ont été absolument inflexibles et l'ont refusé. La seule chose qu'ils aient acceptée, c'est que la Turquie puisse acheminer 10 000 000 de tonnes d'assistance humanitaire à Gaza. Bon, ma foi, c'est déjà cela, mais cette exigence de lever totalement le blocus n'a pas été acceptée par les Israéliens. Il va y avoir par ailleurs la nomination d'un nouvel ambassadeur turc en Israël et israélien en Turquie, puisque depuis 2010, les relations diplomatiques n'avaient jamais été rompues, mais le niveau de représentation diplomatique était tombé au niveau du premier ou deuxième conseiller, ce qui est très très bas en termes diplomatiques. Les choses sont très codifiées dans le milieu de la diplomatie internationale. Donc là, nous aurons 2 ambassadeurs en poste en bonne et due forme. Donc ce qui est quand même aussi le symbole d'une volonté réciproque de renouer des relations à un bon niveau. Pour le reste, on n'a pas encore les clauses précises, et je pense d'ailleurs qu'il y a peut-être des clauses qui ne seront pas publiques. Je pense notamment à la coopération militaire qui probablement est aussi un aspect qui va être réactivé dans les semaines ou les mois à venir.
Et quelles conséquences cet accord aura-t-il pour ces deux pays ?
Israël va sûrement profiter de cet accord pour se targuer du fait qu'elle est capable de renouer des relations à peu près normalisées avec un grand État de la région. Le gouvernement israélien va en profiter en termes de communication. Donc je pense qu'il y a là un véritable intérêt politique de la part des Israéliens, parce qu'on sait très bien que ce pays, par sa politique totalement autiste à l'égard des Palestiniens, est un pays qui qui aujourd'hui est quand même assez isolé sur la scène internationale. Du côté des Turcs, Israël est un pays qui a découvert beaucoup de gisements en gaz en Méditerranée orientale. Et donc la Turquie a tout intérêt aussi de ce point de vue économique et en termes d'approvisionnement énergétique à renouer des relations économiques avec l'État d'Israël. Mais en même temps, je pense que ça aussi risque de contribuer à l'approfondissement de l'isolement turc parce que dans la région, il y a beaucoup d'adversaires d'Israël. Eh bien, cette reprise de contact à haut niveau et de normalisation des relations risque de porter préjudice à la Turquie. Donc, il y a des aspects incontestablement positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs qui pourraient se retourner contre ses intérêts nationaux dans les semaines ou les mois à venir.